Monsieur Carter me regarda avec un sourire singulier sur le visage. « Vous faites des progrès, monsieur Austin, » me dit-il. « Avant peu, vous ferez un agent de police de première force. » Je n'acceptai ce compliment qu'avec défiance, car il y avait dans le ton de monsieur Carter quelque chose qui ressemblait à de l'ironie. « Je vais vous dire ce que je pense, » me dit-il tout à coup en m'arrêtant par la boutonnière. « Je crois savoir pourquoi on a arraché à la victime son habit, son gilet et sa chemise. » Je priai l'agent de police de me dire sa pensée sur ce sujet, mais il refusa de me satisfaire. « Attendez et regardez, » dit-il. « Si je suis dans le vrai, vous verrez bientôt ce que je veux dire. Si j'ai tort, je garderai mes pensées pour moi. » Je suis un vieux renard et je ne me soucie pas d'être pris en défaut. Je n'ajoutai rien après cela. La disparition des vêtements de la victime m'avait toujours paru la seule circonstance inconciliable avec la culpabilité de Dunbar. Que quelque misérable se fût souillé d'un crime pour arracher à sa victime des objets de mince valeur, cela était encore vraisemblable. Mais que Dunbar, l'homme riche, l'anglo-indien, l'ultra-raffiné, dépouilla le corps de son valet et profanât un cadavre, me semblait une chose incroyable, et je ne voyais aucune hypothèse qui pût l'expliquer. C'était le seul point qui, depuis le commencement, m'avait complètement dérouté. Nous trouvâmes le dragueur qui nous attendait sous les arbres ruisselant d'eau. Monsieur Carter s'était révélé aux gens de la justice du pays comme l'un des flambeaux de Scotland Yard. Et s'il lui avait pris fantaisie de creuser sous les fondations de la cathédrale, c'est à peine s'ils auraient osé lui faire des objections. Un des constables se promenait sur le bord de la rivière, suivant les préparatifs du regard. Il est inutile de raconter en détail cette triste journée. Je dirais seulement que je me promenais de long en large sur l'herbe humide, depuis midi jusqu'au coucher du soleil, pensant toujours à m'en aller, attendant toujours, retenu par l'idée que les recherches de M. Carter allaient aboutir. Je dirais que les heures s'écoulèrent à entendre le grincement des dagues de fer sur les cailloux de la rivière, et cela sans résultat. On retira de l'eau des fragments rouillés de vieux objets de fer hors de service. Des cadavres de chiens et de chats, de vieux souliers pleins de cailloux, des enchevêtrements de végétation pourrie, et toutes sortes de détritus descriptibles et indescriptibles qui furent jetés sur les bords. À mesure que le jour s'avançait, l'agent de police devenait de plus en plus sale, crotté et mouillé. Mais cependant, il ne perdait pas courage. « Je veux sonder jusqu'au dernier recoin du ruisseau, et je veux que chaque trou qu'il contient soit fouillé 10 fois avant que j'abandonne la partie, » me dit-il en venant me trouver, comme le jour tombait, pour m'apporter un peu d'eau-de-vie qu'avait été chercher un petit garçon qui, pendant toute l'après-midi, avait été employé à apporter de la bière. Quand la nuit fut venue, on alluma une ou deux torches résineuses que M. Carter avait envoyées chercher à la tombée du jour. Et le travail continua à la lueur vacillante que ces torches jetaient sur l'eau. Je continuai à me promener de long en large sous les arbres dans l'obscurité, comme je l'avais fait pendant le jour. Et à un certain moment où j'étais très éloigné de la lueur rouge des torches, une singulière hallucination s'empara de moi. Au milieu des arbres noirs, je crus voir quelque chose se mouvoir. Quelque chose qui me rappela la jeune fille que j'avais vue en face du bureau de poste la nuit précédente. Je me mis à courir dans sa direction, mais l'ombre sembla reculer et disparaître. Un vague bruissement comme celui d'une robe de femme vint frapper mes oreilles au moment où je la perdis de vue. Mais cette fois encore, j'avais de bonnes raisons pour attribuer ces visions à l'état de mon cerveau, après une journée d'attente longue et fatigante. Enfin, comme j'étais complètement épuisé, M. Carter me rejoignit. « Ils sont trouvés !» s'écria-t-il. « Nous les avons trouvés. Nous avons trouvé les vêtements de la victime. On les avait jetés dans le trou le plus profond et les rats les ont entamés. Mais grâce à Dieu, nous trouverons ce que nous cherchons. Je ne vais pas beaucoup à l'église, mais je crois qu'il y a une providence qui guette les coquins et saisit les plus habiles au moment où ils s'y attendent le moins. Jamais je n'avais vu M. Carter si surexcité qu'il l'était alors. Son teint était animé et ses narines dilatées. Je le suivis à l'endroit où les deux hommes qui avaient sondé la rivière étaient rassemblés avec le constable, autour d'un paquet ruisselant qui gisait sur le sol. M. Carter s'agenouilla devant ce paquet qui était couvert d'herbage, de mousse et de sable, et le constable se pencha au-dessus de lui, une torche à la main. « Ce sont là les vêtements de quelqu'un, assurément, » dit l'agent de police, « et, à moins que je ne me trompe fort, c'est ce que je cherchais. Quelqu'un a-t-il un panier ?»« Oui. » L'enfant qui avait apporté de la bière avait un panier. M. Carter mit le paquet visqueux dans le panier et passa le bras dans l'anse. « Vous ne les examinez pas ici, alors ?» demanda le constable d'un air désappointé. « Non, je les emporte directement à l'hôtel. J'aurai la lumière nécessaire. Mais vous pouvez m'accompagner si cela vous fait plaisir, » répondit M. Carter. Il paya les hommes qui avaient travaillé tout le jour, et il les paya généreusement sans doute, car ils parurent très satisfaits. Je lui avais donné de l'argent pour les dépenses de cette nature, parce que je savais que dans les cas semblables, la démarche la plus insignifiante entraîne des frais considérables. Nous nous dirigeâmes vers la maison aussi rapidement que nous le permirent l'état du chemin, l'obscurité qui allait augmentant et la pluie qui tombait toujours. Le constable nous accompagna. Monsieur Carter se régalait d'un petit air qu'il sifflait doucement, ayant toujours le panier au bras. La vase verdâtre et l'eau bourbeuse dégouttaient du fond du panier, chemin faisant. J'étais encore à chercher la raison de sa gaieté. Je ne comprenais pas encore pourquoi il semblait attacher tant d'importance à la découverte des vêtements de la victime. Il était 8h30 passées quand nous arrivâmes tous trois, l'agent de police, le constable de Winchester et moi, dans notre salon à l'hôtel George. Le dîner était dressé sur la grande table, et le garçon, notre ami de la veille, était là, prêt à nous recevoir. Mais M. Carter renvoya le garçon à ses affaires. « J'ai quelque chose à régler avec ce gentleman, » dit-il en montrant d'un geste le constable de Winchester. « Je sonnerai pour dîner. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent en se reportant sur le constable, et je vis comme une crainte vague sur son visage lorsqu'il quitta lentement le salon. « Maintenant, » dit M. Carter, « examinons le paquet. » Il repoussa la table du dîner et en ouvrit une autre de plus petite dimension. Puis il quitta vivement le salon et revint aussitôt, apportant toutes les serviettes qu'il avait pu trouver dans ma chambre et dans la sienne, qui étaient l'une et l'autre très voisines du salon. Il étendit les serviettes sur la table et retira du panier le paquet visqueux. « Apportez les bougies, les deux bougies !» dit-il au constable. L'homme posa les deux bougies à la droite de l'agent assis devant la table. Je me mis à gauche, le suivant du regard avec intérêt. Il employait pour toucher ses haillons souillés les mêmes précautions que s'il eût touché quelque être vivant. Des insectes aquatiques sortirent des herbes qui étaient si bien confondues avec le tissu qu'il n'était guère possible de distinguer l'une de ces choses de l'autre. M. Carter avait raison, les rats avaient passé par là. L'enveloppe extérieure du paquet était faite d'un habit de drap mis en lambeaux par les dents aiguës des radeaux. Dans l'intérieur, il y avait un gilet, une cravate de satin qui ressemblait à une éponge, et une chemise qui avait pu être blanche. Dans la chemise blanche, il y avait une chemise de flanelle d'où sortirent une demi-douzaine de grosses pierres. Ces pierres avaient servi à couler le paquet, mais n'avaient pas été assez lourdes pour l'empêcher de rouler dans le trou où on l'avait trouvé. Le paquet avait été roulé très serré, et le vêtement extérieur était le seul qui eût été endommagé par les rats. Le vêtement intérieur, la chemise de flanelle, était dans un très passable état de conservation. L'agent de police rejeta l'habit, le gilet et les cailloux dans le panier. Puis il roula les deux chemises dans une serviette et s'efforça de les sécher. Le constable suivait des yeux tous ses mouvements, mais il ne semblait rien comprendre à ce qu'il voyait. « Bah, dit Monsieur Carter, il n'y a pas grand-chose là-dedans, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'il soit utile que je vous retienne plus longtemps. Je crois que vous devez avoir besoin de prendre votre thé. » « Je ne pense pas qu'il y eût grand-chose là-dedans, en effet, » dit le constable, en montrant dédaigneusement les haillons humides. La crainte respectueuse que lui inspirait Scotland Yard s'était de beaucoup diminuée pendant cette journée sans fin et fatigante. « Je ne voyais pas d'abord ce que vous vouliez, et je ne le vois pas davantage maintenant. Vous vouliez trouver ces objets, vous les avez trouvés, voilà tout. « Oui, et j'ai payé l'ouvrage que j'ai fait faire. » répondit d'un ton sec M. Carter. « Je n'en suis pas moins reconnaissant du concours que vous m'avez prêté, et je m'estimerais heureux si vous vouliez accepter quelque chose en dédommagement de votre temps perdu. Je vois bien que je me suis trompé, l'homme le plus sage du monde se trompe quelquefois. » Le constable eut un sourire ironique en prenant le souverain que lui offrit M. Carter. Il y avait quelque chose de triomphant dans ce sourire du constable de Winchester. Le triomphe d'un officier provincial, heureux de prendre un londinien en défaut. J'avoue que je laissai échapper un gémissement quand la porte se referma sur cet homme, et que je me trouvai seul avec l'agent qui s'était assis devant la petite table et examinait une des chemises étendues devant lui. « Tout le travail d'aujourd'hui est autant de peine perdue, dis-je, car il ne me semble pas avoir fait un seul pas vers le but que nous cherchons à atteindre. » « Vraiment, monsieur Austin, » répondit l'agent avec animation, « me croyez-vous assez fou pour parler devant l'homme qui vient de quitter cette chambre ? Croyez-vous que je vais lui dire mon secret et lui faire partager mes bénéfices ? La peine prise aujourd'hui nous a amenés au but que nous voulions atteindre. Elle nous a amenés à faire la découverte sur la trace de laquelle la lettre de mademoiselle Wilmot nous avait mis. » Découverte que nous faisait pressentir chaque parole de l'homme d'hier soir. Pourquoi ai-je tenu à voir les vêtements portés par la victime ? Parce que je savais que ces vêtements devaient contenir un secret, sans quoi l'assassin inquiet n'en eût pas dépouillé le cadavre. Il est rare qu'un assassin s'arrête plus longtemps qu'il n'est nécessaire à côté de sa victime, et je savais depuis longtemps que celui qui avait fait disparaître ses vêtements devait avoir d'excellentes raisons pour agir ainsi. Voilà ce que j'ai découvert sans secours étranger, et l'événement me donne raison. Voyez, monsieur Austin. » Il me tendit la chemise humide et décolorée, et m'y montra du doigt un endroit particulier. Là, au milieu des souillures de la vase et des herbes, je vis quelque chose qui s'en détachait clairement. Je vis un nom brodé distinctement en fil rouge, un nom et un prénom. « Que dites-vous de cela ?» me demanda M. Carter en me regardant en face. « Nulle créature au monde jouissant de ses facultés et capable de lire les caractères anglais n'aurait lu autre chose que ce que je lus moi-même. C'était le nom de Henry Dunbar. « Vous y voyez clair maintenant, n'est-ce pas ?» dit M. Carter. « Voilà pourquoi le cadavre a été dépouillé de ses vêtements et pourquoi ceux-ci ont été jetés à l'endroit le plus profond de la rivière. Pourquoi la chaîne et la montre ont changé de propriétaire. Pourquoi l'homme qui est revenu ici après le meurtre a été lent à trouver la clé du pupitre. Vous comprenez pourquoi Mademoiselle Wilmot a rencontré tant de difficultés pour pénétrer jusqu'à l'homme de Maudesley Abbey. Et pourquoi, lorsqu'elle a vu cet homme, elle s'est efforcée de le dérober aux recherches et aux poursuites. Quand elle vous a dit que Dunbar était innocent du meurtre de son père, elle ne vous a dit que la vérité. L'homme assassiné, c'est Dunbar. Son meurtrier, c'est... Je n'en entendis pas davantage. Le sang me monta au cerveau, je chancelai et tombai sur une chaise. Quand je revins à moi, l'agent de police me jetait de l'eau froide au visage. Quand je revins à moi et que je pus penser de sang-froid à ce qui était arrivé, je n'eus plus qu'un seul sentiment dans l'esprit, un sentiment de pitié profonde pour la femme que j'aimais. Monsieur Carter emporta le paquet dans sa chambre et ne tarda pas à revenir, son porte-manteau à la main. Il le mit dans un angle près de la cheminée. « J'ai enfermé sous clé les vêtements là-dedans, dit-il, et mon intention est de ne pas les quitter de l'œil tant qu'ils ne seront pas remis en des mains très sûres. Cette marque qui est sur la chemise de Dunbar servira à faire prendre son meurtrier. Peut-être y a-t-il quelque erreur, dis-je. Les vêtements marqués du nom d'Henry Dunbar peuvent ne pas lui avoir réellement appartenu. Il se peut qu'il ait donné ses vêtements à son ancien domestique. Ce n'est pas vraisemblable, monsieur, car il a rencontré le domestique à Southampton 2 ou 3 heures avant le meurtre. Non, je vois très bien maintenant ce qu'il en est. C'est le cas le plus étrange que j'ai jamais vu, mais il devient d'une très grande simplicité dès qu'on en a la clé. Il n'était pas probable que Dunbar, l'homme dont la réputation était la plus intacte, qui en outre était le seul propriétaire d'une fortune d'1 million sterling, courut la chance d'être pendu. Mais au contraire, il y avait d'excellentes raisons de croire que Wilmot, vagabond, condamné libéré, assassina son ancien maître et, par ce moyen, se mit en son lieu et place, passant ainsi de la position d'un réprouvé n'ayant pas un sou vaillant à celle de principal associé de la maison Dunbar et compagnie. C'était un coup hardi et dont l'exécution a dû être des plus difficiles et des plus périlleuses. Et cet homme l'a bien exécuté, puisqu'il a échappé si longtemps aux soupçons. Ce sont les scrupules de confiance de sa fille qui l'ont trahi. Oui, Monsieur Carter disait vrai. C'était le refus fait par Margaret de remplir ses engagements qui avait occasionné les recherches, dont le résultat avait été la découverte du secret de ce crime affreux. Je songeais avec stupéfaction à cette étrange révélation encore toute nouvelle pour moi. Comment cela avait-il eu lieu? Comment l'avait-on préparé? L'homme que j'avais vu et à qui j'avais parlé n'était donc pas Dunbar, mais bien Wilmot, l'assassin de son maître, l'assassin de propos délibérés de l'homme qu'il allait recevoir après son absence de 35 ans d'Angleterre. Mais ce guet-apens est impossible, m'écriai-je enfin. J'ai vu à Saint Gundolph Lane des lettres de la main de Dunbar écrites depuis le mois d'août dernier. Cela est bien impossible, répondit tranquillement l'agent. J'ai recherché l'histoire de Wilmot en même temps que je lisais les détails sur ce meurtre. L'homme a été déporté pour 30 ans à l'île de Norfolk pour crime de faux. C'était un des individus les plus habiles à contrefaire toute espèce d'écriture parmi tous ceux qui se sont jamais assis sur les bancs de Old Bailey. Il avait la réputation d'un des escrocs les plus entreprenants, d'un habile et hardi coquin. Mais il ne laissait pas d'avoir quelques qualités. À l'île de Norfolk, il travailla avec tant d'ardeur et se conduisit si bien qu'il fut gracié avant d'avoir fait la moitié de sa peine. Il revint en Angleterre, il fut aperçu à Londres, et on le soupçonna d'être compromis dans divers délits, tels que la fabrication de cartes biseautées et de fausses monnaies, mais on ne put prouver sa culpabilité. Je crois qu'il essaya de gagner honnêtement sa vie, mais il ne put y réussir. Il avait sur lui le stigmate du gibier de potence, et s'il rencontra jamais une chance, elle lui fut enlevée avant qu'on pût éprouver la sincérité de son apparente contrition. Voilà son histoire et celle de beaucoup de ses semblables. Et Margaret était la fille de cet homme. Un indicible sentiment de tristesse s'empara de moi à cette pensée. Je comprenais tout maintenant. Cette noble fille avait héroïquement repoussé la vie heureuse et tranquille qui s'offrait à elle, plutôt que d'infliger à son mari la tâche des crimes de son père. Je le voyais bien maintenant. Je revoyais son visage blême, pétrifié par une angoisse sans nom, ses yeux fixes et dilatés, et je me peignais l'horreur de la scène qui avait eu lieu à Maudesley Abbey, quand le père et la fille s'étaient trouvés tête à tête, et que Margaret avait découvert pourquoi le meurtrier avait tant persisté à se cacher d'elle. Le mystère que me dérobait le renoncement de ma fiancée était éclairci, mais ce que je voyais était si horrible que je me pris à regretter le temps de mon ignorance et de mon incertitude. N'eût-il pas mieux valu pour moi laisser Margaret suivre sa fantaisie et emporter avec elle son sublime sacrifice? N'eût-il pas mieux valu laisser le noir secret du meurtre caché à tous, excepté au terrible vengeur dont les jugements atteignent le pécheur dans sa retraite la plus profonde et le poursuivent jusqu'au tombeau? N'eût-il pas mieux valu que les choses se fussent passées ainsi? Non, mon propre cœur me dit que cet argument était faux et lâche. Tant que les relations d'homme à homme subsisteront, tant que les lois existeront pour la protection du faible et la punition du méchant, le cours de la justice ne doit recevoir d'empêchement d'aucun intérêt personnel. Puisque le père de Margaret avait commis ce crime odieux, il devait en subir le châtiment, quoique le cœur brisé de son innocente fille dût être sacrifié à son iniquité. Si, par une étrange fatalité, moi, qui aimais si tendrement cet enfant, j'avais accéléré la venue de ce jour fatal, je n'avais été qu'un aveugle instrument dans le grand dessein de la Providence, et je n'avais pas de raison de regretter la découverte de la vérité. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Sans doute le monde se détournerait de la fille du meurtrier. Mais moi qui l'avais vue éprouver dans la fournaise ardente de la douleur, je savais la perle précieuse que le ciel m'avait donnée dans cette femme dont le nom devait être à tout jamais réputé infâme parmi les honnêtes gens. Et je ne reculais pas devant l'horreur de sa position. Puisque j'ai été assez malheureux pour contribuer au malheur qui l'a frappée, pensais-je, ce sera un devoir pour moi de la rendre tranquille et heureuse dans l'avenir. Mais Margaret consentirait-elle à être ma femme si elle apprenait jamais que j'avais contribué à découvrir le crime de son père? Cette pensée m'obsédait pendant que j'étais assis en face de l'agent de police qui mangeait de bon appétit un excellent dîner et dont l'expression de triomphe contenu m'était insupportable. Le succès grise. Il n'y avait donc rien d'étrange que M. Carter fût satisfait d'avoir réussi à élucider le mystère qui était si complètement demeuré lettre close pour ses collègues. Tant que j'avais pu croire à la culpabilité de Dunbar, je n'avais senti aucun regret à poursuivre le dessein que j'avais entrepris. Je m'étais même surpris quelquefois à partager l'ardeur de l'agent dans cette chasse à l'homme. Mais maintenant que je savais la honte et l'angoisse que notre découverte apporterait inévitablement à la femme que j'aimais, le cœur me manquait et je détestais M. Carter à cause de la joie que lui causait son triomphe. « Il vous est indifférent de voyager par le train express, n'est-ce pas, M. Austin ?» me dit tout à coup l'agent. « Parfaitement indifférent, pourquoi me demandez-vous cela ?» « Parce que je quitterai Winchester par le train express ce soir. »« Pourquoi faire ?»« Pour me rendre aussi vite que possible à Modestley Abbey, où j'aurai l'honneur d'arrêter M. Joseph Wilmot. »« Si vite ?» Je frémis en songeant à l'action rapide de la justice dès qu'un crime est révélé. « Mais qu'arrivera-t-il si vous vous êtes trompé ? Qu'arrivera-t-il si Wilmot est la victime et non le meurtrier ?» Dans ce cas, je ne tarderai pas à reconnaître mon erreur. Si l'homme de Modestley Abbey est bien Dunbar, il ne manquera pas de personnes qui pourront justifier son identité. Mais vous oubliez que Dunbar s'est absenté pendant 35 ans. C'est vrai, mais de nos jours, on ne songe guère à la distance qui sépare l'Angleterre de Calcutta. Il doit y avoir en Angleterre des gens qui ont connu le banquier dans l'Inde, monsieur Austin. Je vais me rendre chez le magistrat du pays, celui qui a arrêté Henry Dunbar ou le supposé Henry Dunbar en août dernier. Je confierai à sa garde les vêtements que voici, car c'est aux assises de Winchester que Joseph Wilmot sera jugé. Le train quitte Winchester à 11h15, ajouta M. Carter en jetant un coup d'œil sur sa montre. Aussi n'ai-je pas de temps à perdre. Il tira le paquet du porte-manteau, l'enveloppa dans une feuille de gros papier gris que le garçon lui avait apportée quelques minutes auparavant, puis il sortit. Je m'assis au coin du feu, réfléchissant et m'efforçant de me familiariser avec les événements de la journée. Le garçon allait et venait lentement dans la chambre, mais quoique j'eusse remarqué qu'il me regardait d'un air fin une ou deux fois, il ne me parla qu'au moment de sortir, et il me dit qu'il y avait sur la cheminée une lettre pour moi, arrivée par le courrier du soir. J'avais eu cette lettre devant les yeux toute la soirée, mais ma préoccupation m'avait empêché de la voir. Elle était de ma mère. Je l'ouvris quand le garçon m'eut quitté, et je lus les lignes suivantes. « Mon cher Clément, j'ai reçu ce matin avec plaisir votre lettre qui m'annonce votre arrivée sans encombre à Winchester. Je suis assurément une vieille radoteuse, mais dès que vous me quittez, si court que soit votre voyage, je me mets à songer aux accidents de chemin de fer et à toutes sortes de calamités possibles et impossibles. Hier matin, j'ai été très surprise de recevoir la visite de Margaret. Je l'ai reçue très froidement tout d'abord. Car, bien que vous ne m'ayez jamais dit pourquoi votre engagement a été si brusquement rompu, je ne puis m'empêcher de penser que le tort est de son côté, car je vous connais trop bien, mon cher enfant, pour vous supposer capable d'inconstance ou de dureté de cœur. Je pensais donc que sa visite était un peu inopportune, et je lui laissais voir que mes sentiments à son égard n'étaient plus les mêmes qu'autrefois. Mais, cher Clément, quand je vis le changement survenu dans cette malheureuse jeune fille, mon cœur s'adoucit immédiatement, et il me fut impossible de lui parler froidement ou durement. Jamais vous n'avez vu de changement comparable. La jeune fille s'était transformée en femme hâve et flétrie. Ses manières sont aussi changées que son aspect. Elle avait une inquiétude fiévreuse qui me glaça le sang dans les veines. Ses lèvres tremblaient pendant qu'elle parlait, et ses paroles semblaient mourir sur ses lèvres. « Elle désirait vous voir, me dit-elle, et quand elle a appris que vous étiez absent, elle a paru au désespoir. Mais après, quand elle m'eut posé bon nombre de questions et que je lui eus dit que vous étiez à Winchester, elle se leva brusquement et se mit à trembler de la tête aux pieds. Je sonnai, je fis apporter du vin et lui en fis boire. Elle ne refusa pas, bien au contraire, elle le but avidement et me dit « J'espère que cela me donnera des forces. Je suis si faible, et j'ai tant besoin de mes forces. » Je la priai de rester et de prendre quelque repos, mais elle ne voulut pas m'écouter. « Il fallait qu'elle retournât à Londres, me dit-elle, et qu'elle y fût pour une époque fixée. Tous mes efforts pour la retenir furent impuissants. Elle me prit les mains et les pressa contre ses lèvres pâlies, et s'enfuit, si différente de la Margaret des premiers jours, qu'une idée terrible me traversa l'esprit et que je commençais à craindre qu'elle ne fût folle. Le reste de la lettre parlait d'autre chose. Mais je ne pus songer qu'au récit que ma mère me faisait de la visite de Margaret. Je compris son agitation en apprenant mon voyage à Winchester. Elle savait qu'il n'y avait qu'un seul motif qui pût m'y mener. Je vis alors que cette silhouette bien connue qui m'était apparue éclairée par la lune n'était pas un fantôme de mon imagination surexcitée. Je ne doutais pas que ce ne fût celle de la noble femme que j'aimais, de la fille héroïque qui m'avait suivi à Winchester et s'était attachée à mes pas dans le fol espoir de se jeter entre son père et le châtiment réservé au crime de celui-ci. J'avais été suivi dans la rue la nuit précédente, suivi cette dernière nuit dans le petit bois. Le bruissement de la robe, l'ombre qui s'était évanouie dans le paysage brumeux, c'était toujours Margaret. Monsieur Carter rentra pendant que je réfléchissais encore à la lettre de ma mère. « Me voici prêt, dit-il vivement. Voulez-vous payer la carte, monsieur Austin ?» « Je suppose que vous m'accompagnerez jusqu'à la fin de l'affaire. Vous allez venir avec moi à Maudesley Abbey, n'est-ce pas ?»« Non, lui dis-je, je ne veux pas me mêler plus longtemps à cette affaire. Faites votre devoir, monsieur Carter, et la récompense que j'ai promise vous sera fidèlement payée. S'il est vrai que Wilmot a bien réellement assassiné son ancien maître, il faut qu'il subisse le châtiment dû à son crime. Je n'ai pas la puissance ni le désir de le protéger. Mais il est le père de la femme que j'aime. Il ne m'appartient pas de le conduire au gibet. » Monsieur Carter devint très grave. « Vous avez raison, monsieur, dit-il, et je me souviens maintenant. L'affaire m'a tellement entraîné que j'avais oublié le changement que cela apporte dans vos affaires. Mais après tout, plus d'une bonne et digne fille a eu un père détestable, et je l'arrêtai du geste. Rien de ce qui pourra arriver ne diminuera mon estime pour mademoiselle Wilmot, lui dis-je. C'est là du moins un point indiscutable. Je tirai mon portefeuille, je donnai à l'agent de l'argent pour ses dépenses et lui souhaitai une bonne nuit. Quand il m'eut quitté, je sortis dans la grande rue. Il ne pleuvait plus et la lune brillait dans un ciel sans nuages. Dieu sait l'accueil que j'eusse fait à Margaret si le hasard l'eût amené sur mon chemin. Mais j'avais l'esprit plein de son image, et je parcourais les rues paisibles de la ville, espérant à chaque recoin de rue, à chaque bruit de pas résonnant sur le pavé, revoir la silhouette de la nuit précédente. Mais en quelque endroit que j'allasse, je ne vis personne qui lui ressemblât, et je retournai enfin à l'hôtel, m'asseoir seul au coin de mon triste feu et écrire le récit du labeur de la journée. Tandis que Clément était assis dans son salon solitaire à l'hôtel Georges et que sa plume courait rapidement sur le papier, une femme parcourait le quai de départ éclairé de la station de Rugby, attendant le train d'embranchement qui devait la conduire à Shorncliffe. Cette femme était Margaret, la jeune femme aux traits hagards et enfiévrés, et dont les allures si changées avaient terrifié la bonne Madame Austin. Mais alors, elle ne tremblait pas. Elle avait rejeté en arrière son voile épais, et quoique les couleurs de la santé ne fussent pas revenues animer ses joues et ses lèvres, ses traits avaient une expression de résolution immuable, et son regard était fixe comme celui d'une personne qui a un dessein en vue, et qui ne veut ni se détourner ni faiblir avant que ce dessein soit exécuté. Il n'y avait qu'un vieux gentleman dans la voiture de première classe où monta Margaret, lorsque le train pour Shorncliffe eut été préparé, et comme ce compagnon de voyage dormit tout le long du chemin, le visage couvert par un vaste mouchoir de soie, Margaret put s'abandonner sans contrainte à ses propres pensées. La jeune fille n'était guère moins paisible que son compagnon endormi. Elle demeura dans une attitude immobile, les mains croisées sur ses genoux et le regard toujours fixe comme lorsqu'elle était sur le quai, attendant le départ. Une fois, elle porta la main à sa ceinture, mais elle la retira aussitôt avec un soupir. « Comme le temps me semble long, dit-elle, comme il me semble long !» « Je n'ai plus de montre maintenant, je ne puis savoir l'heure. S'ils étaient là devant moi, s'ils voyageaient dans ce même train, non, c'est impossible. Je sais que ni Clément ni l'homme qui l'accompagnait n'ont quitté Winchester par le train qui m'a amené à Londres. Mais s'ils avaient envoyé une dépêche télégraphique à Londres ou à Shorncliffe !» Cette idée la fit frémir. Si les hommes qu'elle craignait avaient fait usage du télégraphe, cette grande merveille de la science moderne, elle arriverait trop tard pour accomplir la mission qui la menait. Le train s'arrêta à Shorncliffe pendant qu'elle pensait à cette fatale possibilité. Elle sortit et demanda à un des facteurs de lui amener une voiture, mais l'homme hocha la tête. « Impossible d'avoir une voiture à 7 heures de la nuit, mademoiselle, » dit-il avec politesse. « Où voulez-vous aller ?» Elle ne voulut pas lui dire le lieu de sa destination. Du secret le plus absolu dépendait le succès de son projet. « J'irai à pied, dit-elle, je ne vais pas loin. » Elle quitta la gare avant que l'homme eût le loisir de l'interroger plus longuement. Elle suivit le chemin éclairé par la lune et qui aboutissait à la gare. Elle traversa Shorncliffe dont toutes les fenêtres étaient noires. Elle passa sous le porche sombre, sous l'ombre épaisse que les tours massives du château projetaient sur le cours du ruisseau. Elle quitta la ville et s'engagea dans un chemin désert, tour à tour éclairé et plongé dans l'obscurité, sans trembler dans son abnégation, et n'ayant qu'une unique idée en tête, arriverai-je à temps ? Elle était très fatiguée quand elle atteignit les grilles qui fermaient l'entrée principale du parc de Maudesley. Elle avait entendu parler par Clément d'un sentier qui traversait le parc pour aller à Lisford, et il lui avait dit qu'on arrivait à ce sentier par une porte située dans la clôture du parc, à plus d'un mile de l'entrée principale. Elle suivit la clôture en cherchant la porte du regard. Elle la trouva enfin. C'était une petite porte basse en bois, peinte en blanc, et simplement fermée par un loquet. Au-delà, on voyait le sentier s'enfonçant sous les hêtres, au milieu de l'herbe desséchée. Margaret suivit ce sentier lentement et avec hésitation, jusqu'à ce qu'elle eût atteint une vaste clairière. De l'autre côté de la clairière, elle vit la sombre façade de Maudesley Abbey et trois grandes fenêtres étincelantes dans l'obscurité.